Partie 1. Compréhension orale. Cette partie du test comprend trois sous-parties. Vous allez écouter trois enregistrements. Vous écouterez chaque enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions sur la feuille qui correspond. Suivez les instructions pour savoir quelle feuille vous devez remplir. Maintenant, prenez la feuille marquée d'une petite croix. Première sous-partie. Brigitte Bardot, la légende vivante. Écoutez l'interview que Brigitte Bardot a donnée à l'hebdomadaire Paris Match. Pour les questions suivantes, de 1 à 7, choisissez la bonne réponse A, B, C ou D. À chaque fois, une seule réponse est correcte. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les questions de 1 à 7. Maintenant, écoutez le premier enregistrement.
Celle qui a permis aux Françaises de devenir des femmes modernes, à une époque encore traditionnelle, a fêté ses 80 ans. Elle a reçu notre journaliste à sa fondation pour la protection animale à Paris.
Bonjour Brigitte. Est-ce votre action quotidienne à la tête de la fondation qui vous donne votre éternel dynamisme ?
Bonjour. Certainement. Ma fondation me demande un travail à plein temps. Je suis aidée par une équipe extraordinaire. Je reste passionnée et active. Impossible pour moi de rester inactive, comme c'est le cas de beaucoup de retraités.
Vos 80 ans provoquent une avalanche de lettres venues du monde entier. Que vous disent-elles ?
Elles me disent, dans toutes les langues, y compris en chinois, « Bon anniversaire, Brigitte ». C'est vraiment émouvant et stimulant pour moi.
Notre hebdomadaire vous a consacré 39 couvertures qui marquent 39 événements de votre vie. Quels sont pour vous les 2 ou 3 les plus importants ?
Je dirais mon mariage avec Günther Sachs, mon mariage avec Bernard Dormal et ma rencontre symbolique avec un petit phoque blanc sur la banquise en 1977 pour dénoncer la chasse barbare faite aux phoques à l'époque.
Depuis 50 ans, la presse parle de vous comme du symbole de l'émancipation de la femme. Qu'en pensez-vous ?
L'émancipation des femmes, je n'y suis pour rien. J'ai vécu comme j'en avais envie et je continue. J'aime me décrire comme un animal sauvage, domestiqué, à la fois libre et dépendante de l'homme que j'aime.
Au sommet de votre célébrité, En 1973, vous choisissez d'arrêter le cinéma pour devenir une femme comme les autres. Sans la création de votre fondation, que seriez-vous devenue ?
Je ne me suis jamais prise au sérieux, mais le plus souvent j'ai souffert du manque de liberté que m'imposait cette célébrité. C'était quelque chose de lourd à porter. De plus, sans le secours des animaux, je n'aurais pas pu survivre. C'est pourquoi, aujourd'hui, je sauve la vie de ceux qui ont sauvé la mienne.
Quels sont les principaux obstacles que vous avez dû affronter au moment de créer votre fondation ?
On ne se lance pas dans la protection animale sur un coup de tête. C'est un dur métier pour lequel il faut connaître les lois et certaines règles. La gestion, la comptabilité, les règles d'hygiène, etc. J'ai prouvé que j'en étais capable. Et ma fondation a été reconnue d'utilité publique par le Conseil d'État. J'en suis fière.
Depuis Charles de Gaulle, tous les chefs d'État français vous ont reçu et vous ont fait des promesses. Quel en est le résultat ?
Des promesses, encore des promesses, toujours des promesses. J'en ai marre des promesses. Je veux des actes, des actions concrètes.
Il semblerait que, pour vos 80 ans, vous attendiez du gouvernement français une action qui vous tient particulièrement à cœur. Laquelle ?
Je demande officiellement le changement du statut du cheval pour qu'il devienne animal de compagnie, lui évitant d'être consommé. Voilà ce que je demande au gouvernement français depuis une trentaine d'années déjà.
Maintenant, écoutez le premier enregistrement encore une fois.
Celle qui a permis aux Françaises de devenir des femmes modernes, à une époque encore traditionnelle, a fêté ses 80 ans. Elle a reçu notre journaliste à sa fondation pour la protection animale à Paris.
Bonjour Brigitte. Est-ce votre action quotidienne à la tête de la fondation qui vous donne votre éternel dynamisme ?
Bonjour. Certainement. Ma fondation me demande un travail à plein temps. Je suis aidée par une équipe extraordinaire. Je reste passionnée et active. Impossible pour moi de rester inactive, comme c'est le cas de beaucoup de retraités.
Vos 80 ans provoquent une avalanche de lettres venues du monde entier. Que vous disent-elles ?
Elles me disent, dans toutes les langues, y compris en chinois, « Bon anniversaire, Brigitte ». C'est vraiment émouvant et stimulant pour moi.
Notre hebdomadaire vous a consacré 39 couvertures qui marquent 39 événements de votre vie. Quels sont pour vous les deux ou trois les plus importants ?
Je dirais mon mariage avec Günther Sachs, mon mariage avec Bernard Dormal et ma rencontre symbolique avec un petit phoque blanc sur la banquise en 1977 pour dénoncer la chasse barbare faite aux phoques à l'époque.
Depuis 50 ans, la presse parle de vous comme du symbole de l'émancipation de la femme. Qu'en pensez-vous ?
L'émancipation des femmes, je n'y suis pour rien. J'ai vécu comme j'en avais envie et je continue. J'aime me décrire comme un animal sauvage, domestiqué, à la fois libre et dépendante de l'homme que j'aime.
Au sommet de votre célébrité, en 1973, vous choisissez d'arrêter le cinéma pour devenir une femme comme les autres. Sans la création de votre fondation, que seriez-vous devenue ?
Je ne me suis jamais prise au sérieux, mais le plus souvent j'ai souffert du manque de liberté que m'imposait cette célébrité. C'était quelque chose de lourd à porter. De plus, sans le secours des animaux, je n'aurais pas pu survivre. C'est pourquoi, aujourd'hui, je sauve la vie de ceux qui ont sauvé la mienne.
Quels sont les principaux obstacles que vous avez dû affronter au moment de créer votre fondation ?
On ne se lance pas dans la protection animale sur un coup de tête. C'est un dur métier pour lequel il faut connaître les lois et certaines règles. La gestion, la comptabilité, les règles d'hygiène, etc. J'ai prouvé que j'en étais capable. Et ma fondation a été reconnue d'utilité publique par le Conseil d'État. J'en suis fière.
Depuis Charles de Gaulle, tous les chefs d'État français vous ont reçu et vous ont fait des promesses. Quel en est le résultat ?
Des promesses, encore des promesses, toujours des promesses. J'en ai marre des promesses. Je veux des actes, des actions concrètes.
Il semblerait que, pour vos 80 ans, vous attendiez du gouvernement français une action qui vous tient particulièrement à cœur. Laquelle ?
Je demande officiellement le changement du statut du cheval pour qu'il devienne animal de compagnie, lui évitant d'être consommé. Voilà ce que je demande au gouvernement français depuis une trentaine d'années déjà.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Deuxième sous-partie. Nathalie Péchala, habituée des patinoires. Écoutez le portrait de Nathalie Péchala, athlète qui travaille en duo avec Fabien Bourza. Pour les phrases de 8 à 13, dites si c'est vrai, A, faux, B, ou si ce n'est pas dit dans le texte, C. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les phrases de 8 à 13. Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement. Nathalie Péchala est une athlète française qui travaille en duo avec Fabien Bourza. Son partenaire et elle sont français et font partie de l'équipe de France de patineurs sur glace. Ils font de la danse sur glace et ils ont décidé de s'entraîner sur la patinoire de Détroit, aux États-Unis. Plongeons dans son quotidien.
Je me lève à 7h30 car une longue matinée de travail m'attend. Vers 8h30, je rejoins Fabien à la patinoire, où nous travaillons les portées hors glace, c'est-à-dire dans la salle de danse. Le système d'entraînement est génial ici, car il y a tout sur place. 2 patinoires, 1 salle de musculation, 2 salles de danse. Cela nous convient parfaitement. Chaque jour, nous travaillons d'abord la technique, puis le programme en entier. Et 2 fois par semaine, nous perfectionnons la chorégraphie et le travail sur l'émotion, avec un mime professionnel. L'après-midi, c'est la danse classique, ou bien on enchaîne les exercices de musculation et de cardio. Nous avons aussi des cours particuliers, parfois avec un danseur de salon, parfois avec notre entraîneur pour améliorer un élément technique. Ce que j'aime dans le patinage, c'est raconter une histoire. offrir un joli paquet cadeau avec les costumes, la danse et la musique. Tout doit être fluide et harmonieux, malgré les difficultés, même si cela demande des centaines d'heures d'entraînement. J'ai débuté le patinage à l'âge de 7 ans. Avec les années, j'ai appris à maîtriser le stress. Le meilleur moyen d'arriver détendu en compétition, c'est d'avoir travaillé intensément. Je rentre chez moi vers 17h, je prends une bonne douche pour me vider la tête, puis je cuisine. Après le dîner, je règle des détails pratiques par courriel avec ma costumière ou notre chorégraphe. Ensuite, je discute avec mes amis français sur Skype ou je fais un tour sur les réseaux sociaux. Les soirs de semaine, je suis trop fatiguée pour sortir, alors je regarde une série ou bien je lis. Je m'endors vers 22h. Je profite du week-end pour me reposer. J'aime aller au théâtre ou au restaurant avec des amis ou les patineurs des équipes étrangères. Je me couche vers minuit ou plus tard quand je sors danser. C'est surtout pendant la période où nous avons le moins d'entraînement.
Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement encore une fois. Nathalie Péchala est une athlète française qui travaille en duo avec Fabien Bourza. Son partenaire et elle sont français et font partie de l'équipe de France de patineurs sur glace. Ils font de la danse sur glace et ils ont décidé de s'entraîner sur la patinoire de Détroit, aux États-Unis. Plongeons dans son quotidien.
Je me lève à 7h30 car une longue matinée de travail m'attend. Vers 8h30, je rejoins Fabien à la patinoire où nous travaillons les portées hors glace, c'est-à-dire dans la salle de danse. Le système d'entraînement est génial ici car il y a tout sur place. Deux patinoires, une salle de musculation, deux salles de danse. Cela nous convient parfaitement. Chaque jour, nous travaillons d'abord la technique, puis le programme en entier. Et deux fois par semaine, nous perfectionnons la chorégraphie et le travail sur l'émotion, avec un mime professionnel. L'après-midi, c'est la danse classique, ou bien on enchaîne les exercices de musculation et de cardio. Nous avons aussi des cours particuliers, parfois avec un danseur de salon, parfois avec notre entraîneur pour améliorer un élément technique. Ce que j'aime dans le patinage, c'est raconter une histoire, offrir un joli paquet cadeau avec les costumes, la danse et la musique. Tout doit être fluide et harmonieux, malgré les difficultés, même si cela demande des centaines d'heures d'entraînement. J'ai débuté le patinage à l'âge de 7 ans. Avec les années, j'ai appris à maîtriser le stress. Le meilleur moyen d'arriver détendu en compétition, c'est d'avoir travaillé intensément. Je rentre chez moi vers 17h, je prends une bonne douche pour me vider la tête, puis je cuisine. Après le dîner, je règle des détails pratiques par courriel avec ma costumière ou notre chorégraphe. Ensuite, je discute avec mes amis français sur Skype ou je fais un tour sur les réseaux sociaux. Les soirs de semaine, je suis trop fatiguée pour sortir, alors je regarde une série ou bien je lis. Je m'endors vers 22h. Je profite du week-end pour me reposer. J'aime aller au théâtre ou au restaurant avec des amis ou les patineurs des équipes étrangères. Je me couche vers minuit ou plus tard quand je sors danser. C'est surtout pendant la période où nous avons le moins d'entraînement.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Maintenant, prenez la feuille marquée d'un stylo. Troisième sous-partie. Victor Hugo et Alexandre Dumas, père. Écoutez le témoignage qui parle des relations entre les deux écrivains exceptionnels. Pour les espaces de 14 à 20, complétez le texte qui le résume. À chaque fois, vous devez utiliser un seul mot pour compléter le résumé. Écrivez les mots qui manquent sur la feuille marquée d'un stylo. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire le texte. Maintenant, écoutez le troisième enregistrement. Victor Hugo et Alexandre Dumas, père, géant de la littérature française du XIXe siècle, ont entretenu toute leur vie une relation complexe. Une relation d'amitié très forte, puisque dès leur début, les deux jeunes hommes se battent côte à côte pour imposer ce qui deviendra le mouvement romantique en littérature. Le romantisme est une véritable révolution culturelle. Dans leurs œuvres, les auteurs expriment de nouveaux thèmes, comme par exemple la passion, le mal-être, les sentiments compliqués, voire extrêmes, en réaction totale contre l'idéal classique et le rationalisme. En 1851, les deux hommes se retrouvent en Belgique. Victor Hugo en exil pour exprimer son opposition au régime impérial de Napoléon III et Alexandre Dumas père, exilé à cause de ses dettes. L'amitié entre les deux hommes reste intacte.
Pour bien comprendre cette collaboration autant artistique qu'amicale entre les deux hommes, il faut remonter au début du siècle. Au XIXe siècle, les écritures plurielles, c'est-à-dire à plusieurs, sont un phénomène ordinaire et les collaborations sont donc très nombreuses. En effet, pour attirer de plus en plus de lecteurs, les journaux ont l'idée de créer une nouvelle rubrique, le roman feuilleton. Chaque semaine, un auteur doit rendre un texte adapté aux contraintes du journal. Il doit laisser du suspense à la fin de l'épisode, prévoir des résumés, alterner les séquences dramatiques et comiques et s'adapter aux désirs des lecteurs. C'est sous cette forme feuilletonesque que naîtront Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo. Le rythme de publication intense demandait donc rapidité et efficacité. Alexandre Dumas père était connu pour savoir repérer les faiblesses des textes des autres et savoir les corriger en urgence. Paradoxalement, il a eu aussi besoin de l'aide expresse de Victor Hugo pour terminer sa pièce de théâtre Christine. Évidemment, ces partenariats déclenchaient parfois des tensions et de la jalousie entre les écrivains. Malgré cela, l'amitié entre Hugo et Dumas père perdurera au fil des années. À la mort de ce dernier, Victor Hugo adressera à Alexandre Dumas fils une lettre superbe et émouvante, témoignant de son admiration pour son vieux compagnon de littérature.
Maintenant, écoutez le troisième enregistrement encore une fois. Victor Hugo et Alexandre Dumas père, géants de la littérature française du XIXe siècle, ont entretenu toute leur vie une relation complexe. Une relation d'amitié très forte, puisque dès leur début, les deux jeunes hommes se battent côte à côte pour imposer ce qui deviendra le mouvement romantique en littérature. Le romantisme est une véritable révolution culturelle. Dans leurs œuvres, les auteurs expriment de nouveaux thèmes, comme par exemple la passion, le mal-être, les sentiments compliqués, voire extrêmes, en réaction totale contre l'idéal classique et le rationalisme. En 1851, les deux hommes se retrouvent en Belgique. Victor Hugo en exil pour exprimer son opposition au régime impérial de Napoléon III et Alexandre Dumas père, exilé à cause de ses dettes. L'amitié entre les deux hommes reste intacte.
Pour bien comprendre cette collaboration autant artistique qu'amicale entre les deux hommes, il faut remonter au début du siècle. Au XIXe siècle, les écritures plurielles, c'est-à-dire à plusieurs, sont un phénomène ordinaire et les collaborations sont donc très nombreuses. En effet, pour attirer de plus en plus de lecteurs, les journaux ont l'idée de créer une nouvelle rubrique, le roman feuilleton. Chaque semaine, un auteur doit rendre un texte adapté aux contraintes du journal. Il doit laisser du suspense à la fin de l'épisode, prévoir des résumés, alterner les séquences dramatiques et comiques et s'adapter aux désirs des lecteurs. C'est sous cette forme feuilletonesque que naîtront Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo. Le rythme de publication intense demandait donc rapidité et efficacité. Alexandre Dumas père était connu pour savoir repérer les faiblesses des textes des autres et savoir les corriger en urgence. Paradoxalement, il a eu aussi besoin de l'aide expresse de Victor Hugo pour terminer sa pièce de théâtre « Christine ». Évidemment, ces partenariats déclenchaient parfois des tensions et de la jalousie entre les écrivains. Malgré cela, l'amitié entre Hugo et Dumas père perdurera au fil des années. À la mort de ce dernier, Victor Hugo adressera à Alexandre Dumas, fils, une lettre superbe et émouvante, témoignant de son admiration pour son vieux compagnon de littérature.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Terminez le travail sur cette partie du test. Fin de la première partie. Le test continue à la page suivante.